Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos. Eh ben bonjour aux auditeurs de Radio Galère, vous êtes bien en 2015 et vous écoutez l'émission mensuelle d'Attaque Marseille. La Gueule Ouverte. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que Mathieu revient plus jeune, plus beau, plus svelte que jamais, si vous le voyez. Alors bonjour Mathieu et bienvenue à la maison. Eh ben aujourd'hui, on va consacrer notre émission à la Grèce, aux espoirs suscités par la victoire de Syriza le 25 janvier dernier.
Eh oui, bonjour à tous et merci pour l'accueil Hervé. C'est vrai que ça fait plaisir d'être de retour et c'est vrai que je suis svelte. Hein. Donc on va y aller tout de suite. Hein. Alors on va parler effectivement de la Grèce ce mois-ci. Et malgré l'ingérence et la pression des dirigeants de l'Union européenne, le peuple grec a décidé de prendre courageusement son destin en main et d'en finir avec les politiques d'austérité qui ont plongé le pays dans la misère et la récession. Dans les pays victimes de la Troïka, constitué, je le rappelle pour les auditeurs qui l'ignoreraient encore, par la Banque européenne, le FMI et la Commission européenne, mais aussi dans de nombreux autres pays européens, cette victoire est perçue comme un formidable encouragement à lutter pour mettre un terme à des politiques profitables aux marchés financiers et désastreuses pour les populations.
Et bien sûr, les grands médias relaient l'idée absurde selon laquelle l'annulation de la dette grecque coûterait 600 euros à chaque contribuable français. Et au fur et à mesure que le temps passe, la propagande s'intensifie et notre travail d'éducation populaire sur la question de la dette publique devient de plus en plus indispensable. Alors dans cette première partie, on va essayer d'apporter des réponses à quatre idées reçues sur la dette grecque qui ont vocation à y contribuer.
Alors tout de suite, la première idée reçue que nous allons essayer de démonter. Donc on nous dit que la dette grecque représenterait une ardoise de 735 euros par français. Citation tirée du Figaro du 8 janvier dernier. Et de 636 euros selon TF1, assertion qui a été donnée le 2 février. Alors pourquoi c'est faux ? Eh bien la France est engagée à la hauteur de 40 milliards d'euros par rapport à la Grèce. Une petite partie a été prêtée à ce pays dans le cadre de prêts bilatéraux, le reste étant apporté en garantie au Fonds européen de solidarité financière, le FESF, lequel a emprunté sur les marchés financiers pour prêter à la Grèce. Dans les deux cas, ces prêts sont déjà comptabilisés dans la dette publique française. Leur annulation n'augmenterait donc pas la dette.
Et je précise que ce fameux Fonds européen de solidarité financière que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire le Fonds européen de solidarité financière, oui, je le répète, dire, que voilà. Tu viens d'évoquer, et on va arrêter, donc qui a été créé en 2010, vise à préserver la stabilité financière en Europe en fournissant une assistance financière aux États de la zone euro. Et cette aide est conditionnée à l'acceptation de plans d'ajustement structurel. Bon, il a été maintenant remplacé par le mécanisme européen de l'acceptation de plans de solidarité, le MES, en 2012. Et la France devrait-elle débourser ces sommes en cas d'annulation de la dette grecque ? Ben non, car en fait la France, comme la plupart des pays, ne rembourse jamais vraiment sa dette. Lorsqu'un emprunt vient à échéance, la France le rembourse en empruntant de nouveau. On dit que l'État fait rouler sa dette.
Et oui, et la seule chose que perdraient les contribuables français, ce sont les intérêts versés par la Grèce, soit 15 euros par français et par an. La BCE pourrait résoudre facilement le problème d'ailleurs de la dette grecque. Elle pourrait rayer d'un trait de plume les 28 milliards qu'elle détient. Elle pourrait racheter aux institutions publiques, donc les États, le Fonds européen de stabilité financière, les titres grecs qu'ils détiennent et les annuler également. Ou bien elle pourrait aussi les transformer, comme le demande la Grèce, en obligations perpétuelles, avec un taux d'intérêt fixe et faible et pas de remboursement du capital.
Alors on va en venir maintenant à la deuxième idée reçue. Alors, la Grèce devra rembourser sa dette. C'était Michel Sapin qui le disait le 2 février. Ou rembourser est un devoir éthique pour un État de droit. Ça, c'était Marine Le Pen, le 4 février. Alors, pourquoi c'est faux ? Parce que, sauf à de rares exceptions, près, un État ne rembourse pas sa dette. On l'a déjà dit tout à l'heure, il réemprunte pour faire face aux échéances. Au budget de l'État figurent les intérêts de la dette. Jamais la somme empruntée, c'est-à-dire le principal. Contrairement à un particulier, l'État n'est pas mortel. Il peut s'endetter sans fin pour payer sa dette. C'est la différence avec l'emprunt d'une famille qui, elle, est obligée de rembourser sa dette.
Mais quand les marchés financiers ne veulent plus prêter à un État, ou exigent des taux d'intérêt exorbitants. C'est là que les choses se compliquent, se gâtent. C'est pourquoi en 2011, quand les banques ont pris peur devant les difficultés de la Grèce, la BCE et les États européens ont dû lui prêter. C'est ce qui leur permet aujourd'hui d'exercer un brutal chantage en menaçant de couper les crédits à la Grèce si son gouvernement maintient les mesures anti-austérité promises aux électeurs. Hausse du SMIC et des retraites, réembauche des fonctionnaires licenciés, arrêt des privatisations.
Et chacun sait, même le FMI et la BCE, que l'actuel fardeau de la dette est trop lourd pour la Grèce. Donc une renégociation est nécessaire qui porte sur une annulation partielle, sur les taux d'intérêt, sur l'échéancier. Il faut pour cela une conférence européenne sur la dette, comme ce fut le cas d'ailleurs en 1953 pour la République fédérale allemande.
Alors maintenant, on va passer à la troisième idée reçue. La Grèce, c'est une administration pléthorique, 7% du PIB contre 3% en Europe, qui éprouve une difficulté à lever l'impôt et à maîtriser les dépenses. Donc là, on a une citation qu'on retrouve souvent prononcée par des économistes ou les économistes de garde en général. Alors pourquoi c'est faux ? Alors selon l'OCDE, les fonctionnaires représentaient en Grèce 7% de l'emploi total en 2001 et 8% en 2011. Alors qu'en Allemagne, par exemple, ce taux est de 11% et en France de 23%. En incluant la sécurité sociale. Les dépenses publiques de la Grèce, représentaient en 2011 42% du PIB contre 45% pour l'Allemagne et 52% pour la France.
Mais alors, on peut se demander pourquoi, avant même la crise financière et la récession, la dette publique grecque atteignait-elle déjà 103% du PIB en 2007, faisant du pays le maillon faible de la zone euro aux yeux des marchés financiers. Eh bien, une étude récente montre que la flambée de la dette grecque ne résulte pas du tout d'une gabegie de fonctionnaires et de prestations sociales. Les dépenses sont restées globalement constantes en pourcentage du PIB de 1990 jusqu'à 2007. Comme en France, ce sont les taux d'intérêt excessifs et les cadeaux fiscaux qui ont gonflé la dette. Les taux d'intérêt exigés par les prêteurs entre 1990 et 2000 ont été extravagants. En moyenne, 7,5% pour une croissance du PIB de 2,5%, d'où un effet boule de neige. L'État grec s'est endetté pour payer cette hausse incontrôlée des intérêts.
Et concernant les recettes publiques, dès l'entrée dans la zone euro en 2001, les riches grecs ont fait la fête. Entre 2004 et 2008, la Grèce a réduit les droits de succession, diminué par deux les taux d'imposition sur le revenu, et décrété trois lois d'amnistie fiscale pour les fraudeurs. Au total, avec des taux d'intérêt raisonnables et un simple maintien des recettes publiques, la dette grecque aurait été deux fois plus faible en 2007. Depuis lors, c'est essentiellement l'imposition de mesures drastiques d'austérité qui a contribué à l'explosion de la dette en provoquant une grave récession.
Eh ben, on va finir avec l'idée reçue numéro 4, donc je cite « L'austérité, ça paye. La Grèce repart en trombe. Selon les dernières prévisions de Bruxelles, la croissance sera cette année de 2,5% en Grèce et 3,6% l'année prochaine, ce qui fera d'Athènes le champion de la croissance de la zone euro. Bref, au risque de choquer, la détestée Troïka a fait du bon boulot. » Alors qui c'est qui dit ça ? C'était Alexis de Tarlé, pas de Taré, mais presque, dans le journal du dimanche, le 8 février. Alors pourquoi c'est faux ? Ben, les Grecs seraient-ils stupides d'avoir mis fin à une politique qui marcherait si bien ? En 2014, le PIB de la Grèce est inférieur de 25,8% à son niveau de 2007. L'investissement a chuté de 67%. Le taux de chômage est de 26% alors même que nombre de jeunes et de moins jeunes ont dû quitter leur pays pour trouver un emploi. 46% des Grecs sont au-dessous du seuil de pauvreté. La mortalité infantile a augmenté de 43%. Quant aux prévisions de Bruxelles, à l'automne 2011, elles annonçaient déjà la reprise en Grèce pour 2013. Finalement, le PIB grec a chuté de 4,7% cette année-là. Du bon boulot.
C'est vrai. Et tous les économistes honnêtes le reconnaissent maintenant. Les politiques d'austérité imposées par les institutions européennes ont été catastrophiques pour la Grèce et l'ensemble de la zone euro. Cela a plongé ces pays dans le chômage et la déflation. Les déficits ont certes été réduits, mais avec un coût social et économique monstrueux. Et la dette a continué d'augmenter. Pour la zone euro, elle est passée de 65% à 94% du PIB entre 2008 et 2014. L'austérité n'a pas payé. Elle a au contraire enfoncé le continent dans la crise. En réduisant les impôts des hauts revenus et des sociétés, les États ont creusé les déficits, puis ont emprunté aux riches pour financer ces fameux déficits. Moins d'impôts payés d'un côté, plus d'intérêts perçus de l'autre, c'est le bingo pour les plus riches.
On va conclure cette première partie en disant qu'en Grèce, c'est comme dans les autres pays européens, l'effet des politiques d'austérité est le même. Toujours plus de chômage, toujours moins d'investissements publics pour préparer l'avenir. Et ça, c'est la leçon du calvaire grec. Y mettre fin bénéficierait à tous et à toutes, car il faut stopper cette récession que l'austérité crée partout et tirer les leçons de la crise pour s'engager dans un autre modèle de développement.
Alors la première partie de l'émission touche à sa fin, et avant de continuer dans la deuxième, on va écouter une chanson extraite du film Z, réalisé par Costa Gavras sur une musique de Mikis Theodorakis. Pour mémoire, le film Z est un réquisitoire contre la dictature des colonels, instauré le 21 avril 1967 en Grèce, et l'assassinat d'un député grec par la police et la gendarmerie. On la dédie aux 595 femmes de ménage de l'administration des finances de la Grèce, qui avaient été licenciées en 2013 et que le nouveau gouvernement de Syriza vient de réintégrer. La chanson s'appelle, alors attention, excusez-moi pour l'accent, hein, on y va, « To Palikari Echi Kemo », et elle est chantée par la chanteuse grecque Maria Farantouri.
Έχει καημό κι εγώ στα μάτια το κοιτώ και το κοιτώ και δεν μιλώ απόψε, απόψε του έχει το καημό απόψε, απόψε του έχει το καημό πάει χωρίς δουλειά και ξοχιώνει και φυσά χωρίς τσιγάρο και δουλειά απόψε, απόψε το δάκρυ του κοινά απόψε, απόψε το δάκρυ του κοινά Άρη έχει καημό, μα όταν κοιτά τον ουρανό τα μάτια του είναι δυο πουλιά απόψε, απόψε μου σκίζει η καρδιά απόψε, απόψε μου σκίζει η καρδιά.
Alors nous voici revenus pour la deuxième partie de cette émission consacrée à la Grèce. La victoire de Syriza a été accueillie avec beaucoup de soulagement, de joie et le sentiment d'un honneur retrouvé, de libération vis-à-vis d'une caste politique dont personne ne voulait plus. Pour autant, tout le monde est conscient que le plus dur reste à faire pour qu'advienne un véritable changement en Grèce et surtout en Europe. Le gouvernement grec a dû batailler avec l'Eurogroupe et a finalement conclu un accord le 20 février dernier pour prolonger le programme de financement du pays. Pour certains, il s'agirait d'une capitulation, enfin principalement dans les médias dits mainstream. Pour d'autres, il s'agirait d'une victoire ou encore d'une façon d'acheter du temps en attendant de futures négociations. Mais qu'en est-il vraiment ?
Eh bien, pendant les semaines qui ont suivi les élections, le gouvernement grec a dû batailler seul contre tous les autres gouvernements sous la menace d'un étouffement financier. Avec cet accord, le gouvernement a obtenu des marges de manœuvre pour revenir à la charge mieux préparé, avec, il faut l'espérer, un rapport de force plus favorable. Cela n'est pas allé sans des concessions importantes, mais leur durée de vie de 4 mois est limitée dans le temps et elles ne mettent pas en péril le mandat du gouvernement qui est de 4 ans. Après 5 ans d'austérité dure et injuste, les Grecs ne s'attendaient pas à un miracle. Ils ont conscience du rapport de force défavorable en Europe, mais l'espoir d'un avenir meilleur demeure intact.
Alors, quelle est ta perception de l'évolution du rapport de force dans les négociations européennes ? Penses-tu qu'une issue favorable est possible dans les 4 prochains mois ?
Alors, pendant les 4 prochains mois, le gouvernement grec va tenter de mettre en œuvre son programme en évitant d'entrer en conflit ouvert avec ses créanciers européens. Et il a de quoi faire pour lutter contre la corruption, la fraude, l'évasion fiscale, pour faire face à la crise humanitaire ou encore réparer les injustices commises par le précédent gouvernement, par exemple des licenciements abusifs dans le secteur public, la fermeture de la télévision publique, le bradage d'entreprises publiques.
Pour autant, l'accord du 20 février marque le début d'un bras de fer entre le gouvernement grec et ses créanciers. Alors l'enjeu, c'est l'application de l'agenda austéritaire européen et de mesures telles que le démantèlement du droit du travail, les retraites, les privatisations. Les pressions financières se poursuivent pendant ces 4 prochains mois, quitte à prendre le risque de mettre la Grèce au bord du défaut de paiement. Au terme de cette période, la Grèce pourrait bien se retrouver devant le dilemme suivant. Soit accepter un nouveau plan d'austérité accompagné d'un nouveau prêt de plusieurs dizaines de milliards d'euros sur 3 ans sans aucune remise de dette, soit faire défaut et négocier une restructuration de sa dette publique ainsi que sa sortie de la zone euro.
Et avec une sortie qui serait présentée comme une sanction exemplaire pour éviter toute éventualité d'une remise de dette dans la zone euro. C'est pourquoi ces 4 prochains mois sont utilisés par le gouvernement grec pour préparer très sérieusement un plan B dans le cas où un accord avec ses partenaires européens s'avérerait impossible. En l'état actuel du rapport de force en Europe, c'est malheureusement une hypothèse tout à fait plausible.
Mais heureusement, nous n'en sommes pas là, en tout cas pas encore, et on fera tout pour que les Grecs réussissent. On va maintenant parler de l'annonce faite par la présidente du Parlement grec, Zoé Constantopoulou, de mettre en place une commission d'audit de la dette publique grecque. Cette commission sera notamment formée par des personnalités internationales reconnues et expérimentées dans les questions d'audit de la dette. Alors Hervé, peux-tu nous dire quel sera son rôle ?
Alors le travail de cette commission sera d'examiner la formation de la dette publique grecque, notamment dans les cas où il pourrait y avoir eu fraude ou corruption manifeste. On pense par exemple au contrat d'armement conclu avec des entreprises françaises et allemandes. La commission d'audit de la dette aura aussi la délicate mission de déterminer l'éventuel caractère odieux, illégal ou illégitime des dettes publiques contractées par le gouvernement grec. On ne sait pas encore l'étendue des dettes concernées, mais rien que sur les 7 dernières années, on devine facilement l'étendue de la tâche et les acteurs impliqués, ce qui laisse à penser que la commission sera sous le feu des projecteurs européens.
L'objectif affirmé est bien ici de lever le voile sur l'endettement de la Grèce afin que le peuple sache la vérité, même si les conclusions de l'audit pourront aussi être utilisées dans les négociations sur la dette réclamées par le gouvernement. On peut aussi noter la reconstitution de la commission de revendication des réparations de guerre allemande dont la dette de l'Allemagne vis-à-vis de la Grèce est estimée à 11 milliards d'euros.
Alors on va rappeler pour les auditeurs de Radio Galère que le coût social et humain des politiques d'austérité qui ont été imposées à la Grèce dans le cadre de la gestion de la dette est abyssal. Quelques chiffres pour en donner l'idée. 274% d'augmentation du chômage depuis 2009, une réduction de 30% du revenu des ménages et de 45% pour les retraites, une augmentation immense de la pauvreté. Et cela pendant que 505 Grecs, soit 0,005% de la population, possédaient 60 milliards d'euros en 2013, 10 milliards de plus qu'en 2012.
Et il ne s'agit pas seulement d'emploi et de niveau de vie. Le système de santé est dévasté, l'éducation et la culture sont privées de ressources vitales, le nombre de suicides a augmenté de 43% en 4 ans et le taux de dépression a quadruplé. 600 000 à 1 million d'immigrants et réfugiés en Grèce vivent des conditions de plus en plus précaires.
On va quand même parler un peu de ce qu'on peut faire, nous, ici et ailleurs. Donc de nombreux militants et citoyens du monde entier sont indignés par le chantage et l'intimidation exercés par les institutions européennes et les gouvernements contre le choix exprimé par le peuple grec de mettre fin à l'austérité. Ils se posent la question de ce qu'ils peuvent faire. Il y a également une aspiration à développer des formes de solidarité politique concrètes avec le peuple grec. Et cette recherche de l'engagement dans des actions concrètes de solidarité traduit bien la volonté politique de dire que le combat des Grecs est aussi le nôtre et de voir se développer des alternatives sociales. Parmi les initiatives existantes, il en est deux qu'Attaque soutient particulièrement, à savoir un projet qui s'appelle « De peuple à peuple » et puis le réseau « Solidarité franco-grecque ».
Alors le projet de peuple à peuple, à l'initiative du réseau Interdemos, alors je vais vous donner l'adresse internet sur laquelle vous pouvez aller chercher des informations, c'est www.interdemos.net. Donc ce réseau organise une collecte de fonds participative le crowdfunding, on dit en anglais, pour les initiatives sociales locales grecques, autogérées, fédérées par Solidarité pour tous, plateforme en lien avec Syriza. De peuple à peuple, vise à collecter des fonds manifestant de façon spectaculaire la solidarité des peuples français et européens avec la Grèce dans un moment critique. Nous visons deux objectifs. D'abord, de financer les actions de solidarité sociale de terrain en Grèce, qui sont fédérées par la plateforme Solidarity for All, et garantir que leur mise en œuvre ne sera pas compromise par un étranglement financier de la Grèce. Ensuite, créer un effet politique important, en démontrant que les peuples sont plus généreux et plus inventifs que les gouvernements qui agissent pour le bénéfice des seuls rentiers. Avec pour objectif de réunir au moins 300 000 euros pour financer sur 2 ans des projets concrets. Je vais également vous donner maintenant les coordonnées d'un lien internet, alors un petit peu long, mais sur lequel vous pourrez également récupérer toutes les informations nécessaires. C'est www.kisskissbankbank.com/depeuple-à-peuple.
Et puis, on va parler maintenant du réseau Solidarité franco-grec, au lancement duquel ATTAC a participé et qui s'est spécialisé sur les questions de santé. Donc ce réseau est, lui, en lien direct avec les structures autogérées grecques, comme certains dispensaires ou certaines pharmacies. Il est animé par un collectif de personnes de tous horizons, associatifs, professionnels, politiques, syndicaux, qui se réunit régulièrement sur Paris et qui s'est donné comme but d'informer le plus largement possible sur la crise sociale et sanitaire en Grèce et sur ses origines politiques, de créer en France les maillons d'une chaîne européenne de solidarité, et notamment en collectant et en envoyant sur place le matériel médical et pharmaceutique nécessaire. Également de contribuer au débat nécessaire sur la santé publique et les soins pour tous et toutes. Et puis enfin d'élargir notre initiative en ouvrant un appel à soutien par le biais de notre site et en essayant de nous étendre au-delà de la région parisienne. Donc ce collectif réunit des militants grecs et français. Pour le contacter, donc une adresse, solidaritéfrancogrec.wordpress.com.
Alors on arrive maintenant à la fin de cette deuxième partie, et avant de passer à l'agenda Marseille au mois d'avril, on va écouter à la fois une chanteuse et une chanson, toutes deux emblématiques de la Grèce qui lutte. Il s'agit d'Angélique Ionatos avec la chanson « Les enfants du Pirée », en grec « Ta pédia tou Pirea ».
Tu fais des progrès, hein, là.
Ah, tu m'as mis des pièges ce mois-ci avec les titres grecs. C'est une chanson universellement connue qui a été reprise par des dizaines d'artistes femmes et hommes dans toutes les langues. Mais c'est Mélina Mercouri qui l'a chantée pour la première fois en 1960 dans le film de Jules Dassin, « Jamais le dimanche ». Allez, c'est parti, on écoute Angélique Ionatos.
Παράθυρο μου στέλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Και φτάνω στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουνιά. Πως θα ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Σαν θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Μα όσο κι αν ψάχνω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Τρελή να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Κι όταν βραδιά τις μέλιες του αλάνι γεμίζει από παιδιά. Την πόρτα μου σ' αυγό δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Κι όταν το το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πέτρα διαβάζω στο λαιμό και μια χα δεροφυλοχτώ. Και στο λιμάνι σαν θα βγω, ξέρω πως κάποιον άγνωστο θα βρω. Μ' όσο κι αν ψάχνω, δε βρίσκω άλλο λιμάνι. Τρελή να μ' έχει κάνει, όσο το πήρε. Κι όταν βραδιάζει, τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει. Από παιδιά.
Voilà de retour pour la dernière partie de l'émission avec l'agenda d'Attaque Marseille en avril. Alors Hervé, qu'est-ce que nous a concocté Attaque ce mois-ci ?
Alors il y avait bien une alter randonnée organisée ce dimanche 12 avril, sur le thème arsenic et vieille dentelle. Je vais vous dire de quoi il s'agissait, mais de toute façon c'est déjà complet. Mais le rendez-vous était fixé à 10h02, hein, au terminus du bus 19 à la Madrague de Montredon. Où il est question de musarder autour des anciennes installations chimiques qui ont pourri les calanques, depuis celle de l'Escalette à celle de Legressante, pour finir en une boustifaille à la campagne Pastrée. Alors, pour ceux qui ont la chance de pouvoir venir, c'est gratuit, ouvert à tous, avec quand même une recommandation à porter du pinard, qui ne soit pas de l'arsenic. Mais pour celles et ceux qui malheureusement ne pourront pas en être, parce qu'on ne peut pas être tout un troupeau à se balader comme ça dans les calanques, et qu'on est déjà 26 inscrits, vous pouvez toujours nous rejoindre pour faire un pique-nique musical à la campagne Pastrée à partir de 13h, on va dire.
Bon, bah alors, puisque l'alter randonnée, apparemment, c'est complet, est-ce qu'il y a autre chose de prévu ce mois-ci ?
Alors oui, dans le cadre de la journée mondiale contre les accords de libre-échange et d'investissement, et en particulier le redoutable traité transatlantique, le TAFTA, le collectif Stop TAFTA Marseille organise le samedi 18 avril à 15h, au départ de la place du Général de Gaulle, c'est le long de la Canebière, une grande déambulation à travers Marseille, avec du théâtre de rue, des batucadas, une chorale. Il est même question d'un mariage avec des garçons et des filles d'honneur et une robe avec une longue traîne. Et donc, les Marseillais qui vont en être marcheront, danseront, agiront de mille et une manières. Et puis, ce sera comme ça dans toute l'Europe.
Ça a l'air sympa, ça. Et c'est tout ou il y en a encore ?
Eh bien, pas du tout. On continue avec la projection d'un film le mardi 21 avril à 18h30, donc dans le local d'attaque du 29 boulevard Longchamp, dans le premier arrondissement. Donc un film réalisé par Philippe Faucon, qui est sorti en 2012, qui s'appelle « La désintégration ». Donc ce film, c'est une chronique fiction sur la montée de l'islam fondamentaliste parmi les jeunes des cités. En l'occurrence, là, ça se passe dans une cité lilloise. Et donc, c'est l'histoire de jeunes qui sont endoctrinés par un autre jeune, à peine plus âgé qu'eux, et qui se radicalisent peu à peu et sont prêts à sombrer dans le terrorisme. Donc c'est un sujet un peu difficile et polémique. La projection sera suivie d'une discussion, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Donc je répète, ça a lieu le 21 avril à 18h30 dans le local attaque du 29 boulevard Longchamp.
Est-ce que si c'est fini pour de bon, quoi ?
Eh ben non, c'est pas du tout fini, parce que on continue avec le cinéma, mais cette fois avec 2 jours de cinéma, donc autour du monde paysan. Ça a lieu le samedi 2 et le dimanche 3 mai au cinéma Le Gyptis, dans le quartier de la Belle de Mai. Donc c'est un événement auquel Attaque est associé. Le cinéma Le Gyptis, donc c'est au 136 rue Loubon. C'est le 3e arrondissement. Donc le premier film, c'est samedi à partir de 17h, donc sur le monde paysan, avec un buffet paysan, un débat dans le hall du cinéma, puis un autre film à 20h30. Ça reprend le dimanche à 11h avec un film suivi d'un débat, puis encore un buffet dans le hall, un marché paysan sur la place Caffaut, un film pour enfants, des images d'archives sur les paysans provençaux. Il y en aura vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts, le 2 et 3 mai au cinéma Le Gyptis, avec Attaque, autour du monde paysan.
Ah bah dis donc, on a un sacré mois en préparation là. Hein. Donc si c'est fini, c'est fini là pour ce mois-ci.
Ah là, c'est fini.
Bon, bah alors on va s'écouter une dernière chanson chantée par Georges Moustaki et écrite par le grand compositeur militant Mikis Theodorakis. Elle s'appelle Kaimos et on va le laisser la présenter lui-même. On écoute Georges Moustaki dans Kaikos.
Alors maintenant, on va faire... Il y a eu les vieux machins, maintenant on va faire les chansons pour terminer. Il y a plusieurs options, des gays, des tristes, des que vous connaissez, des en français, des pas en français. Bon, il y a une chanson de Mikis Theodorakis et Dimitri Christodoulou. C'est une chanson que chantent beaucoup de mes confrères en Grèce, presque tout le monde. Quand on termine une soirée comme ça qu'on a bien passé, on a déjà la nostalgie de ce qui va être après. La solitude, le froid, la pizza. Et la poutine. Il n'y a pas ici. Alors il y a une chanson qui s'appelle Kaimos, qui est un mot intraduisible, qui veut dire la nostalgie, qui veut dire la mélancolie, enfin tout ce qui nous fait pleurer avec certains sentiments de plaisir.
Φίλη σου, για πότε μα
πιο μικρό. Στο στόμα το φιλί, φιλί σου. Τα γαράγια.
J'espère que vous êtes toujours là parce que nous voici de retour avec notre traditionnelle devinette. Alors attention, c'est parti. T'es prêt, Hervé ?
Oui.
Alors c'est parti. Qui a dit, deux points, ouvrez les guillemets, dire qu'un monde nouveau a vu le jour après le scrutin de dimanche n'est pas vrai. Nous respectons le suffrage universel en Grèce, mais la Grèce doit aussi respecter les autres, les opinions publiques et les parlementaires du reste de l'Europe. Des arrangements sont possibles, mais ils n'altéreront pas fondamentalement ce qui est en place. Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens, fermez les guillemets.
Bon, alors là, c'est vraiment facile, un cadeau, hein, Mathieu. Hein, il doit s'agir de Manuel Valls ou d'Emmanuel Macron, lesquels, malgré la magistrale fessée que le Parti Socialiste vient de ramasser aux dernières élections départementales, ne reçoivent aucun signal politique leur indiquant d'aller plus à gauche ou de changer la ligne de politique économique ultralibérale que leur gouvernement, qui n'a plus de socialiste que le nom, mène depuis l'arrivée de Manu au poste de Premier ministre. On voit bien dans quelle haute estime ces messieurs tiennent la démocratie. Le Macron ne vient-il pas d'ailleurs, dans une interview accordée à la BBC, de faire l'éloge des réformes, tout en regrettant que notre pays n'ait pas pris le train des années Thatcher ? Alors, j'ai bon, c'est bien des deux pitres.
Eh bien non, Hervé, mais tu n'étais pas loin. Vois-tu, ces propos scandaleux ont été tenus dans le Figaro du 29 janvier 2015 par M. Jean-Claude Juncker. Alors, qui est ce M. Jean-Claude Juncker ? Pour ceux qui l'ignorent, c'est l'actuel président de la Commission européenne. Et figurez-vous qu'il est impliqué dans un scandale fiscal. 40 médias internationaux s'appuyant sur des documents obtenus par le Consortium international des journalistes d'investigation viennent de révéler l'existence d'accords fiscaux secrets entre le Luxembourg et, tenez-vous bien, 340 multinationales dont Apple, Amazon, IKEA, Pepsi ou AXA. Ces accords, qui permettent à ces firmes de minimiser leurs impôts, représentent des milliards d'euros de recettes fiscales perdues pour les États, où ces entreprises réalisent d'énormes bénéfices selon l'ICIJ, hein, le consortium international de journalistes qui a mis à jour ses affaires, et ses médias partenaires. Alors, je ne vous les citerai pas, hein, mais qui ont participé à l'action. Il y a eu en France Le Monde, au Royaume-Uni Le Guardian, en tout cas de très grands journaux reconnus. Ils ont été passés entre 2002 et 2010, soit à les accords en question, hein, donc soit à une période où Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne depuis le 1er novembre, était aux commandes du Luxembourg. Ministre des Finances du Grand-Duché du 14 juillet 1989 au 23 juillet 2009, il a également été son premier ministre durant près de 19 ans, de janvier 1995 à décembre 2013. Non seulement M. Juncker ne pouvait ignorer les pratiques mises à jour par le consortium, mais au poste qu'il occupait, il les organisait bien sûr. Voilà donc aux mains de quel grand serviteur de l'intérêt commun nous remettons les destinées des peuples européens. De là à penser que le temps est venu de tout reprendre, il n'y a qu'un pas que pour ma part je franchis sans hésitation.
Magistrale leçon de politique.
Ah, merci. Ouais.
Alors, ben, du coup, il ne nous reste plus qu'à se dire au revoir. Donc, cette émission sera rediffusée, si tout va bien, le mardi 21 avril à 14h. Le prochain rendez-vous aura lieu le jeudi 7 mai. Je ne crois pas, d'ailleurs, ça doit être le jeudi 14 mai à 15h, mais peut-être le 7 mai, on verra.
On va réfléchir.
Parce que le 14 mai, c'est
férié,
un jour
non
férié, ouais, alors on va voir si... on n'a pas encore décidé.
Tu travailles, Sidi ? Tu ne sais pas encore ?
On ne sait pas, donc on vous tient au courant.
Mais
c'est le 7 ou le 14, mais en tout cas, c'est à 15h. On va essayer de faire avec le tout nouveau collectif Climat sur Marseille, puisque ce sera le mois de mai, qu'en mai... Fais ce qui te plaît.
Voilà, une grosse interview.
Et puis donc, au mois prochain, pour nous contacter, une seule adresse, accueil.marseille@attaque.org. Bon, alors, à bientôt, Mathieu, reste jeune.
À bientôt, Hervé. On va essayer.
Et puis, salut, Sidi.
Salut.
C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attaque Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye.